Lorsque les Beatles se séparent, John Lennon se consacre à sa carrière solo, épaulé et inspiré par sa femme Yoko Ono, artiste japonaise d'avant-garde. Ono et Lennon forment alors un des couples les plus médiatisés du monde, aussi bien pour leur musique que pour leur engagement politique. Ils créent le Plastic Ono Band, groupe à géométrie variable où ils sont accompagnés d'amis sur scène et en studio. En 1971, John Lennon compose l'une de ses chansons les plus emblématiques, Imagine. L'album du même nom est également son plus grand succès commercial en solo. Lennon se retire de toute activité publique en 1975 pour s'occuper de son fils nouveau-né, Sean, puis reprend sa carrière en 1980, quelques semaines avant d'être assassiné par Mark David Chapman devant sa résidence du Dakota Building à New York. Lorsque les Beatles se séparent, John Lennon se consacre à sa carrière solo, épaulé et inspiré par sa femme Yoko Ono, artiste japonaise d'avant-garde. Ono et Lennon forment alors un des couples les plus médiatisés du monde, aussi bien pour leur musique que pour leur engagement politique. Ils créent le Plastic Ono Band, groupe à géométrie variable où ils sont accompagnés d'amis sur scène et en studio. En 1971, John Lennon compose l'une de ses chansons les plus emblématiques, Imagine. L'album du même nom est également son plus grand succès commercial en solo. Lennon se retire de toute activité publique en 1975 pour s'occuper de son fils nouveau-né, Sean, puis reprend sa carrière en 1980, quelques semaines avant d'être assassiné par Mark David Chapman devant sa résidence du Dakota Building à New York. Outre sa musique, Lennon est également célèbre pour ses nombreuses prises de position, notamment pacifistes, à partir de la fin des années 1960. Ses activités et son engagement, notamment contre la guerre du Vietnam, lui valent des ennuis réguliers avec le gouvernement des États-Unis, qui tente de l'expulser. Personnalité complexe, il fait preuve d'un humour acerbe, teinté d'absurde et de non-sens, et se démarque également par son caractère parfois violent et conflictuel, en contradiction avec son image de représentant de l'idéal pacifiste. Il montre des talents dans les domaines de la peinture et de l'écriture, joue dans plusieurs films et réalise des courts-métrages expérimentaux. 30 ans après sa mort, il reste l'un des artistes les plus populaires du XXe siècle et incarne le mouvement pacifiste Peace and Love des années 1960 et 1970. Un rassemblement à sa mémoire continue d'avoir lieu à New York chaque 8 décembre, date de sa mort, et plusieurs mémoriaux sont érigés en son honneur à travers le monde. Partie 1, biographie. Partie 1-1, enfance et adolescence, 1940 à 1957. Partie 1-1-1, naissance et situation familiale. John Winston Lennon, né le 9 octobre 1940 à la maternité hôpital d'Oxford Street, à Liverpool, pendant un raid de l'aviation allemande en pleine période du Blitz. Il est le fils d'Alfred Fred Lennon et de Julia Stanley. Pour se rendre à l'hôpital où il vient de naître, sa tante Mary Mimi Elizabeth est obligée de traverser la ville, de nuit, en se guidant à la lumière des explosions. John tient son premier prénom de son grand-père John Jack Lennon, et son deuxième prénom, Winston, lui a été donné en hommage au premier ministre britannique Winston Churchill. Jack Lennon, natif de Dublin et mort en 1921, était chanteur de métier. Il a longtemps vécu aux États-Unis avant de revenir à Liverpool, où Fred Lennon est né. Orphelin, celui-ci reçoit une bonne éducation et quitte l'école à 15 ans. Il travaille un an comme garçon de bureau, puis s'engage dans la marine marchande. Il se met aussi à fréquenter Julia Stanley, malgré le désaccord de la famille de la jeune fille, et ils finissent par se marier en 1938. 2 ans plus tard, elle est enceinte du futur John, alors que Fred est en mer. Fred Lennon est marin et est fréquemment éloigné de la maison familiale, tout en versant régulièrement de l'argent à sa famille. Ils habitent une maison sur Newcastle Road, dans un faubourg appelé Penny Lane. Fred s'absente une bonne partie de l'année 1943, en arrêtant de subvenir aux besoins de sa femme et de son fils, puis revient l'année suivante. Il propose alors de s'occuper de sa famille, mais Julia, enceinte d'un autre homme, refuse. Sa sœur, Mimi Smith, ayant porté plainte auprès des services sociaux, Julia doit lui confier la garde de John. Mimi Smith déclare par la suite « J'ai su, au moment où j'ai vu John à l'hôpital, que j'étais celle qui serait sa mère, et pas Julia. Est-ce que cela est horrible à dire ? Pas vraiment, car Julia a considéré ça comme quelque chose de totalement naturel. Elle disait souvent que j'étais sa vraie mère, qu'elle n'avait fait que lui donner le jour. » Mimi rapporte également que les trois avaient discuté et s'étaient mis d'accord pour qu'elle adopte officiellement le petit John, mais cette décision ne s'est jamais concrétisée. Qu'en est le second enfant de Julia, une fille d'abord prénommée Victoria, elle l'a confiée à l'armée du salut en vue de la faire adopter. Par la suite, John Lennon essaiera, sans succès, de retrouver la trace de cette demi-sœur, devenue Ingrid avec le nouveau prénom que lui ont donné ses parents adoptifs, et Pedersen par le mariage, et qui publiera un livre de souvenirs après la mort de John. Prénommée Julia, comme sa mère, la deuxième demi-sœur de Lennon fera de même, d'abord en 1988, puis en 2007. En juillet 1946, Fred vient chercher John chez sa belle-sœur et emménage avec son fils à Blackpool avec l'intention secrète d'émigrer avec lui en Nouvelle-Zélande. Ses finances sont au beau fixe, notamment grâce au marché noir d'après-guerre. Pressentant quelque chose, Julia les rejoint sans tarder. Fred lui propose alors de les accompagner en Nouvelle-Zélande, mais elle refuse après une discussion houleuse. John, âgé de 5 ans, doit choisir entre ses deux parents. Il choisit son père, mais, alors que sa mère repart en pleurant, John se retourne et court vers elle en pleurant aussi. De retour à Liverpool, il est confié définitivement à sa tante et perd tout contact avec son père pendant 20 ans, jusqu'au plein essor de la Beatlemania. Lennon a vécu toute son enfance et son adolescence entouré de femmes, sa mère et les 4 sœurs de celle-ci. Mais, de 9 à 16 ans, il a aussi la chance de vivre parmi une ribambelle de cousins et cousines, parmi lesquels Stanley Parks et Leila, avec qui il effectue de nombreuses sorties joyeuses, séances de cinéma et même des voyages, les trois ensemble ou seulement avec Stanley, plus âgé que lui de 7 ans. 1-1-2, jeunesse chez Mimi Smith. John part habiter à Woolton, un autre quartier de Liverpool, chez sa tante et son oncle, Mimi et George Smith, au 251 Menlove Avenue, dans une maison surnommée Mendips. Il y passe le reste de son enfance et son adolescence. Des 4 Beatles, il est le mieux placé dans l'échelle sociale, vivant dans une maison en banlieue avec un jardin. Lennon est éduqué dans la tradition anglicane, il va au catéchisme et fait même sa communion de son plein gré à 15 ans. Il fréquente tout d'abord l'école primaire de Dovedale, où il apprend à lire et à écrire en 5 mois, aidé par son oncle George. John se révèle être un enfant très curieux et doué pour la littérature. Il invente des chansons à partir des comptines qu'on lui apprend à l'école. Il se crée alors un univers proche de son roman préféré, Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, dont il dessine tous les personnages. Pendant toute sa scolarité, Lennon est meneur et turbulent, et se bagarre sans cesse, aussi bien avec les jeunes enfants de son école que ceux de son quartier. Il explique par exemple « J'adorais le vent dans les saules. Quand j'avais lu un livre, il fallait que ça devienne vrai. C'est pour ça que je voulais être meneur à l'école, pour que les autres jouent les jeux qui me plaisaient, comme dans ce que je venais de lire. » S'il oublie assez vite son père, Lennon pense souvent à sa mère, qu'il voit de temps à autre. De 1952 à 1957, il fréquente le lycée de Quarry Bank, établissement de banlieue proche de chez lui et de bonne réputation. Dès le premier jour, il est impressionné par le nombre d'élèves et par la difficulté que cela présage pour qu'il parvienne encore à s'imposer. L'agressivité et les bagarres de Lennon sont donc toujours de mise au lycée. « Je voulais être admiré, je voulais être le patron, ça me plaisait davantage que faire le petit bourgeois. » Mais John est aussi un élève plein d'humour, créant notamment des bandes dessinées comiques. Il est également l'auteur de poèmes grivois et de dessins obscènes qui lui valent des ennuis réguliers. Ses résultats sont mauvais, empirant chaque année, comme l'explique un professeur dans son bulletin de 3e. Sans espoir, plutôt le clown de la classe, un bulletin épouvantable, fait perdre leur temps aux autres élèves. L'année suivante, il est redirigé vers les classes les plus faibles, la filière C. John en éprouve de la honte, mais ne se met pas à travailler pour autant, n'ayant pas la moindre envie de se mesurer au débile. Il entraîne d'ailleurs son ami Pete Shotton avec lui sur la mauvaise pente. En conséquence, il échoue de peu au General Certificate of Education, l'équivalent du BEPC, ce qui compromet fortement son avenir. Toutefois, il reçoit l'aide de Monsieur Popejoy, un nouveau professeur qui s'est attaché à lui. Popejoy lui permet d'entrer aux Beaux-Arts, le sachant doué pour le dessin. La tante Mimi approuve l'idée. Lennon a pourtant raté l'épreuve de dessin au brevet. Il fallait faire quelque chose sur le thème du voyage. Je leur ai dessiné un bossu plein de verrues, faut croire que ça ne leur a pas plu. En juin 1955, l'oncle George meurt d'une hémorragie, alors que Lennon a presque 15 ans. Il s'entendait bien avec lui et, même s'il n'en montre rien, sa tante affirme que sa mort l'a beaucoup choqué. Lennon vit donc seul avec Mimi. Sa mère lui rend des visites presque quotidiennes, et lui-même va souvent la voir en grandissant. Elle l'héberge régulièrement lorsqu'il se dispute avec sa tante. Julia constitue alors une alliée dans la quête d'indépendance et de rébellion de son fils, raillant les parents et les professeurs qui le briment au lycée. Il voit ainsi sa mère davantage comme une jeune tante ou comme une grande sœur. Sur le plan de la personnalité, John lui ressemble beaucoup. Julia joue aussi un rôle important dans son éducation musicale en lui offrant sa première guitare en 1957, une Gallatone Champion acoustique bon marché. Elle lui apprend notamment le banjo, et la première chanson qu'il sait jouer est, selon les sources, « Ain't That a Shame » de Fat Domino, ou « That Be the Day » de Buddy Holly. Cependant, sa tante se montre très sceptique au sujet d'une éventuelle carrière musicale, lui répétant souvent que « la guitare c'est très bien, mais tu ne pourras jamais vivre de ça ». Quelques années plus tard, alors que les Beatles sont au sommet de leur gloire, John offre ainsi à sa tante un plateau d'argent sur lequel il grave cette phrase. 1-2, début de carrière, 1957 à 1962. 1-2-1, les Quarrymen. Rien ne m'a vraiment touché jusqu'au jour où j'ai entendu Elvis. S'il n'y avait pas eu Elvis, il n'y aurait pas eu les Beatles. Je suis un fan d'Elvis parce que c'est lui qui m'a permis de quitter Liverpool. Dès que je l'ai entendu et que je l'ai aimé, ça a été toute ma vie. Il n'a plus rien existé d'autre. Je ne pensais plus qu'au rock'n'roll. À part le sexe, la bouffe et l'argent, mais c'est la même chose en fait. Alors que John Lennon, désormais fou de rock'n'roll, est au lycée de Quarry Bank, la vague du skiffle déferle sur Liverpool. Lui vient alors l'idée de fonder un groupe avec son ami Eric Griffiths, ce qui les pousse à prendre des leçons de guitare, rapidement abandonnées par Lennon. Il est encore âgé de 16 ans en mars 1957 lorsqu'il fonde, avec Griffiths, Pete Shotton, Nigel Walley et Ivan Vaughan, le groupe des Quarrymen, qui se produit dans des petites fêtes paroissiales. C'est durant l'une d'elles, le 6 juillet 1957, qu'Ivan Vaughan présente Paul McCartney à John. Le jeune Paul, âgé de 15 ans, et gaucher, l'impressionne en lui jouant les accords de la chanson « 20 Flight Rock » d'Eddie Cochran. Lennon résume ainsi cette rencontre cruciale. C'est à partir de ce jour où j'ai rencontré Paul que les choses se sont mises à avancer. Le père de Paul commence par penser que Lennon est une mauvaise fréquentation pour son fils, mais il finit rapidement par accepter que les Quarrymen répètent chez lui, et le duo commence à travailler ensemble. Dès 1957, ils écrivent leur première chanson, comme « Hello Little Girl », qui devient par la suite une des chansons phares du groupe « The Foremost », ou encore « One After 909 », que l'on retrouve bien des années plus tard sur l'album « Let It Be ». Nous avions l'habitude de sécher les cours et retourner chez moi à Forsyth Road pour composer. Il y avait beaucoup de chansons de cette époque que nous n'avons jamais utilisées, parce que ce sont des chansons très simples, se souvient Paul McCartney. Lennon fréquente le Liverpool College of Arts à partir de l'automne 1957, section Arts et Lettres, ce qui ne lui plaît pas. Rétrospectivement, il pense qu'il aurait dû étudier l'illustration ou la peinture. Il arbore à cette époque un style de teddy boy, porte des vestes en cuir et se fait connaître de tous comme un rebelle peu recommandable. Au Beaux-Arts, il se lie d'amitié avec Stuart Sutcliffe et y rencontre également sa future épouse, Cynthia Powell. Distrait, John oublie souvent d'apporter son matériel de dessin et n'hésite pas à lui emprunter crayons et pinceaux. Un jour, où il est venu en cours avec sa guitare, il lui chante la ballade américaine « Ain't She Sweet ». Powell, quant à elle, se teint les cheveux en blond après avoir entendu Lennon complimenter une fille aux cheveux blonds. Cependant, il se montre insolent et inattentif durant les cours, au point d'être refusé par certains enseignants. Ayant échoué à un examen, il quitte l'établissement avant la fin de son année. Outre leur passion de la musique, John et Paul partagent bientôt un point commun qui tisse un lien très fort entre eux, la perte de leur mère. Près de 2 ans après la mort de Mary McCartney, Julia est renversée par une voiture le 15 juillet 1958 à 2 pas de Mendips. John vit la mort de sa mère comme un grand traumatisme, le plongeant dans l'amertume. Je l'avais perdue 2 fois, la première quand on m'avait envoyé chez ma tante, et la seconde à 17 ans, quand elle est vraiment physiquement morte. Ça m'a rendu très très amer. Il ne se remet jamais de cette disparition, lui consacrant plusieurs chansons par la suite. Au sein des Quarrymen, John Lennon jouit d'une certaine autorité sur les autres, en raison de son âge comme de ses excès. Sur sa position dans le groupe, Paul McCartney déclare « On admirait tous John, c'était le plus âgé et c'était plutôt lui le chef. C'était l'esprit le plus vif, le plus intelligent et tout ce genre de choses. » Le look de Lennon est à l'époque très influencé par Elvis Presley et Marlon Brando. En février 1958, McCartney le convainc d'inclure son ami George Harrison dans le groupe. Lennon, peu tenté au départ car persuadé que Harrison est trop jeune, change d'avis après l'avoir auditionné dans un bus. 1-2-2, création des Beatles. Par la suite, Lennon nomme son groupe les Silver Beatles pour faire allusion au film L'équipé sauvage, puis, en 1960, les Beatles, le deuxième E se changeant en A sur une idée de Lennon et Sutcliffe en référence à la Beat Generation. Le groupe est très influencé par le répertoire rock'n'roll de l'époque et son jeu est très agressif. Le succès venant, il quitte Liverpool et fait ses armes dans les boîtes du quartier chaud de St. Pauli de Hambourg, en Allemagne. John, plein de facéties pendant ses concerts, « Je m'appelle John, je joue de la guitare, parfois je joue les jambouilles aussi », devient le révolté de la bande. Sa tante, Mimi, est terrifiée par ce voyage et le supplie sans succès de reprendre ses études. Pour cette escapade à bande, il impose son meilleur ami Stuart Sutcliffe à la basse, bien que, peintre très doué, Stuart se révèle un piètre musicien. Peu après les débuts de l'engagement, il quitte le groupe pour vivre son histoire d'amour avec Astrid Kircher, auteur des premiers clichés officiels des Beatles. C'est alors McCartney qui prend la basse, Lennon et Harrison refusant de quitter leur guitare. Le groupe connaît d'autres déboires lorsque McCartney et le batteur de l'époque, Pete Best, sont renvoyés d'Allemagne après avoir mis le feu à un préservatif à l'arrière d'un cinéma, tandis que George est lui aussi renvoyé, n'étant pas en âge de travailler. Lennon, quant à lui, perd son permis de travail peu après et doit également repartir en Angleterre. Ils reviennent en Allemagne en avril 1961 et y enregistrent My Bonnie avec Tony Sheridan. En novembre, Brian Epstein propose aux Beatles de devenir leur manager, ce qu'ils acceptent. Ce dernier joue un rôle déterminant pour le groupe, poussant les membres à changer leur tenue de cuir pour des complets vestons, leur donnant une image plus sage. John Lennon vit un deuxième drame lorsque Sutcliffe meurt d'une tumeur au cerveau le 10 avril 1962, quelques jours avant le retour du groupe à Hambourg. Lennon tient alors un grand rôle auprès de Kircher. Celle-ci déclarera par la suite qu'il l'a sauvé en lui remontant le moral, lui disant « Soit tu vis, soit tu meurs, tu ne peux pas rester au milieu ». La vie personnelle de John Lennon prend un nouveau tour mi-1962, lorsque Cynthia lui apprend qu'elle est enceinte de lui. Il se marie le 23 août, mais l'union reste secrète. En effet, il serait mauvais pour l'image du groupe que ses membres ne soient pas célibataires. C'est ainsi que même Ringo Starr, tout juste engagé par le groupe, n'est pas mis au courant et apprend que Lennon est marié lors d'une entrevue chez le comptable, au cours de laquelle John déclare avoir une épouse à charge. Le mariage ne s'ébruite qu'à la naissance de leur premier enfant, Julian Lennon, le 8 avril 1963. Julian grandit cependant sans avoir de véritable lien avec son père et déclarera par la suite dans une interview « Je n'ai jamais vraiment voulu savoir la réalité sur comment papa se comporte avec moi. On a dit des trucs très négatifs à mon sujet, comme quand il a dit que je devais provenir d'une bouteille de whisky un samedi soir. Des trucs comme ça. On pense « Où est l'amour dans tout ça ?» Avec Paul, on traînait souvent, plus que papa et moi. On était très amis et il semble y avoir bien plus de photos de Paul et moi jouant ensemble à cet âge qu'il n'y en a de mon père et moi. Au moment de la naissance de Julianne, John est en vacances avec Brian Epstein, le manager des Beatles. Il déclare « Cynthia allait accoucher, mais je n'allais pas rater mes vacances pour un bébé. Je me suis dit que j'étais un drôle d'enfoiré, je suis parti. » 1-3, Beatlemania, 1963 à 1966. 1-3-1, montée en popularité. Après plusieurs refus des maisons de disques londoniennes, les Beatles sont engagés par George Martin, chez Parlophone, une filiale d'EMI. Le premier single du groupe, Love Me Do, paraît le 5 octobre 1962. La chanson atteint la 17e place des ventes au Royaume-Uni. Le premier album du groupe, Please Please Me, est en grande partie enregistré le 11 février 1963, en une seule séance de 12 heures d'affilée, alors que Lennon souffre d'un rhume. 8 des 14 chansons de l'album sont écrites par John et Paul McCartney. Celles-ci sont d'abord signées McCartney-Lennon, avant que la formule ne soit définitivement changée pour Lennon-McCartney. Le succès du groupe prend alors de l'ampleur. Une meute de fans suit les quatre garçons, des foules se pressent autour d'eux, parfois en crise d'hystérie, ce qui prend les Beatles au dépourvu. Le phénomène est baptisé Beatlemania par la presse britannique. Le 4 novembre 1963, ils ont l'honneur de se produire devant la famille royale. Si le groupe s'impose vite en Europe, il en va différemment aux États-Unis, où le phénomène met plus longtemps à démarrer. Il faut attendre le passage du groupe au Ed Sullivan Show, le 9 février 1964, qui fracasse le record d'audience pour une émission télévisée, pour que le groupe gagne une grande renommée dans le pays. Par la suite, les Beatles enchaînent les tournées internationales, les albums et les films, en connaissant un succès planétaire. Cette célébrité ne va pas sans rumeur. Ainsi, l'année 1963 voit éclater une affaire concernant Lennon et Brian Epstein. Tous deux ont en effet passé des vacances ensemble en Espagne, ce qui conduit à de nombreuses spéculations, Epstein étant gay. La chose prend une certaine ampleur lorsque, au cours du 21e anniversaire de McCartney, Lennon s'en prend physiquement à quelqu'un qui lui a demandé « Comment s'est passée ta lune de miel, John ?» Il s'agissait d'une blague, que Lennon a cependant pris comme une insulte. Un film de fiction retrace les vacances passées par Lennon et Epstein en Espagne, « The Hours and Times ». Cette période prospère voit Lennon se lancer dans l'écriture de deux ouvrages, « In His Own Right » et « A Spaniard in the Works », recueil d'histoires et de dessins surréalistes et humoristiques. Les quatre membres du groupe sont faits membres de l'Ordre de l'Empire britannique le 12 juin 1965. Ils rencontrent également le poète folk Bob Dylan, qui reconnaît en John un talent d'écrivain. De cette reconnaissance naît un respect et un échange entre les deux icônes de la musique. Lennon vit mal cette folie qui les entoure et se réfugie dans les sarcasmes et la boulimie. Il parlera plus tard de sa période Elvis Gros dans une interview. De cette période, où il se répugne lui-même, naît la chanson Help, qu'il juge, rétrospectivement seulement, comme un véritable appel au secours lancé au monde. Il se montre également nostalgique de la période cuir et rock'n'roll, quand les Beatles n'étaient que d'obscurs jeunes musiciens s'escrimant dans des petits clubs. Ce que nous avons fait de meilleur n'a jamais été enregistré. Nous étions des performers. Nous jouions du straight rock dans les salles de danse, à Liverpool et à Hambourg. Et ce que nous produisions était fantastique. Il n'y avait personne pour nous égaler en Grande-Bretagne. 1-3-2, plus populaire que Jésus. Après avoir écrit A Spaniard in the Works, John Lennon donne, en mars 1966, une interview à une amie journaliste, Maureen Cleave, 5 mois avant la troisième tournée américaine d'été, les deux premières ayant eu lieu en 1964 et 1965. Il déclare « Le christianisme disparaîtra. Il rétrécira, s'évaporera. Je n'ai pas à discuter là-dessus. J'ai raison. Il sera prouvé que j'ai raison. Nous sommes plus populaires que Jésus désormais. Je ne sais pas ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. » Aussitôt tronqué et déformé, ses propos provoquent une vague de haine, partie du sud des États-Unis, contre le groupe, et Lennon en particulier. Ainsi, en Alabama, des disques des Beatles sont brûlés. Epstein présente en conférence de presse une déclaration approuvée par Lennon, ce qui ne calme pas la situation pour autant. 22 stations de radio américaines boycottent le groupe. La vente de ces disques est interdite en Afrique du Sud, et les prestations publiques américaines des Beatles sont tendues. La situation ne se calme qu'après de nombreuses excuses publiques de Lennon fin août. En 2008, dans un article célébrant les 40 ans de l'album blanc, l'Osservatore Romano, journal officiel du Vatican, revient avec indulgence sur cet écart en le qualifiant de « phrase qui avait provoqué une profonde indignation, mais qui sonne aujourd'hui comme une boutade venant d'un jeune de la classe laborieuse anglaise dépassé par un succès inattendu ». C'est également à cette époque que se tiennent les derniers concerts des Beatles, qui ne savent plus comment concilier leurs innovations musicales et les foules hystériques. Ils décident à l'unanimité d'arrêter définitivement les frais à l'issue de l'ultime concert de leur tournée américaine de l'été 1966, le 29 août, au Candlestick Park de San Francisco. Par la suite, ils refusent de jouer, même pour $1 million. Lennon vit cependant assez mal cet arrêt, déclarant « plus de tournée, la vie sans les Beatles, c'est comme un vide dans l'avenir ». Il envisage même de quitter le groupe. Les Beatles travaillent désormais en studio. À partir de Revolver, Lennon voit McCartney prendre une place dominante dans le groupe. Cependant, même lorsque l'auteur est unique, comme dans le cas du Yesterday de Paul, les chansons continuent d'être signées Lennon-McCartney sur décision d'Epstein, qui ne veut pas dégrader la cohésion du groupe. Désœuvré par la fin des tournées, Lennon joue dans le film parodique de Richard Lester, How I Won the War. S'il n'est pas un grand succès commercial ni critique à sa sortie, le 18 octobre 1967, le film lui permet d'exprimer ses positions pacifistes vis-à-vis de la guerre du Vietnam. Lors du tournage, Lennon compose une de ses titres phares, Strawberry Fields Forever. Pendant cette période, Lennon change nettement physiquement. Devenu beaucoup plus maigre et acceptant désormais de porter publiquement des lunettes, ronde et désormais légendaire à cause de sa myopie. 1-4, apogée et éclatement des Beatles, 1967 à 1970. 1-4-1, Sgt Pepper et séjour en Inde. 1967 voit l'apogée des Beatles avec la sortie de l'album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band qui triomphe au sommet des hit-parades, des deux côtés de l'Atlantique. La période est également prolifique pour le tandem Lennon-McCartney, les deux hommes passant de nombreuses heures à travailler leurs chansons et à expérimenter de nouvelles sonorités. Lennon va plus loin et plonge dans le psychédélisme, un grand renfort de drogue et de sonorités complexes. Le rôle de la drogue prend d'ailleurs plus d'ampleur dans les chansons du groupe de l'aveu de McCartney et provoque parfois des polémiques, comme le fait que Lucy in the Sky with Diamonds soit une supposée allusion au LSD due à ses initiales. Le 25 juin 1967, les Beatles interprètent en direct du studio numéro 1 d'Abbey Road et en Mondovision une chanson de John Lennon spécialement composée pour l'émission Our World, diffusée devant plus de 400 millions de téléspectateurs à travers la planète, All You Need Is Love, qui devient numéro 1 un peu partout dans le monde. Le triomphe est total. Peu après survient un événement dramatique. Brian Epstein meurt le 27 août 1967, pendant que le groupe assiste à une conférence du Maharishi Mahesh Yogi. Les Beatles ont alors besoin d'un nouveau leader, et c'est Paul McCartney qui prend le rôle. Il se charge de la direction du film Magical Mystery Tour, qui se révèle cependant un échec commercial et critique. Lennon vit mal ce revers. J'ai alors compris qu'on avait des problèmes. Je n'avais aucune certitude sur notre capacité à faire autre chose que de la musique, et j'avais peur. Il cherche de plus en plus la paix intérieure, et se tourne vers une artiste japonaise d'avant-garde, Yoko Ono, qu'il a rencontrée lors d'une exposition à l'Indica Gallery de Londres en 1966. Entre février et avril 1968, lors d'un séjour à Rishikesh, dans l'ashram du Maharishi, qui doit leur enseigner la méditation transcendantale, John vit, comme Paul, une extraordinaire période créatrice et compose un grand nombre de nouvelles chansons qu'il utilisera sur l'album blanc, sur les deux derniers disques du groupe et même dans ses premiers albums solo. Lennon divorce finalement à son retour. Il tente de poursuivre son épouse, déclarant être victime et non coupable d'adultère. Cependant, la donne change lorsqu'il est découvert que Yoko est enceinte de John. Les procédures de divorce se compliquent et tournent finalement à la défaveur de Lennon. Ce divorce pousse Paul McCartney à composer Hey Jude, chanson destinée à réconforter Julian Lennon, 5 ans, dont il est très proche. À partir du mois de mai 1968, la présence de Yoko Ono lors des sessions d'enregistrement, aux côtés de John et littéralement au milieu du groupe, provoque malaise, rancœur et animosité. Jusque-là, aucune épouse n'avait été tolérée pendant les enregistrements, mais Lennon fait comprendre aux autres que c'est à prendre ou à laisser. L'artiste ayant trouvé sa muse, la plupart de ses nouvelles compositions sont très fortement influencées par Ono ou font directement référence à elle. I'm So Tired, Happiness is a Warm Gun, Yeah Blues, Julia, Revolution 9 et de nombreuses autres. Yoko chante même sur le titre The Continuing Story of Bungalow Bill. Tout cela aboutit à l'album blanc, double album de 30 titres qui consacre l'éclatement des Beatles, chacun ne se servant des autres que comme musicien de studio. Une scission de plus en plus flagrante s'opère entre Lennon et McCartney. Excédé par des comportements des musiciens, et en particulier celui de John, l'ingénieur du son Geoff Emerick claque la porte en plein milieu des sessions d'enregistrement, tandis que Ringo Starr s'échappe en Sardaigne. L'album n'en remporte pas moins un retentissant succès. 1-4-2, séparation du groupe. Dès son retour de séjour en Inde, John commence à se désintéresser des Beatles, désirant continuer à évoluer en dehors du cadre restrictif des Fab Four. Entre novembre 1968 et fin 1969, pour bien marquer sa première aventure en dehors des Beatles, il publie 3 albums de musique expérimentale attribués à John Lennon et Yoko Ono. Unfinished Music No. 1 Two Virgins, davantage connu pour sa pochette que pour son contenu musical, Unfinished Music No. 2 Life with the Lions et le Wedding Album. La participation du couple Rock'n'Roll Circus des Rolling Stones en décembre 1968 est un autre pas hors du cadre des Beatles. Lennon forme pour l'occasion un super groupe baptisé The Dirty Mac, en référence au groupe Fleetwood Mac. En plus de lui même au chant et à la guitare rythmique, il comporte Eric Clapton à la guitare solo, Mitch Mitchell du Jimi Hendrix Experience à la batterie et Keith Richards des Rolling Stones à la basse. Le groupe interprète Yeah Blues, composé par John et paru un mois plus tôt sur l'album blanc des Beatles, suivi d'un buff avec Yoko au chant et Avery Gildiss au violon. Sur le tournage du documentaire Get Back, par la suite renommé Let It Be, l'ambiance est maussade. George Harrison va jusqu'à quitter le groupe pendant 12 jours en janvier 1969. Yoko continue à assister à toutes les sessions d'enregistrement des Beatles, assise aux côtés de John. Au même moment, ce dernier s'engage plus ouvertement sur le plan politique, notamment par rapport à la guerre, sous l'influence d'Ono. John et Yoko se marient le 20 mars 1969 à Gibraltar et organisent par la suite les fameux Bend In pour la paix. Cette période inspire la chanson The Ballad of John and Yoko, enregistrée le 14 avril 1969 par Lennon et McCartney seuls, ce dernier assurant de nombreux instruments. Cette même année, Lennon adopte comme deuxième nom Ono. En juillet, il lance Give Peace a Chance, son premier single solo, bien qu'attribué au Plastic Ono Band. Il ne s'agit alors que d'un groupe théorique, inspiré d'une idée de Yoko Ono visant à manipuler des mannequins sur scène, d'où le nom. Cependant, la chanson est encore créditée Lennon-McCartney. Lennon se sentant à la fois coupable de lancer le premier, un vrai disque solo, mais pas encore prêt à couper le cordon avec Paul. Fin septembre 1969, Lennon met fin aux Beatles en annonçant son départ aux autres membres du groupe, dans la foulée de l'enregistrement de l'album Abbey Road. En octobre, il publie son second single, solo, Cold Turkey, avec Eric Clapton à la guitare. La chanson avait été pressentie pour figurer sur Abbey Road, mais a finalement été jugée trop personnelle pour être publiée autrement qu'en solo. Lennon accélère encore cette séparation en engageant Alan Klein comme nouveau manager du groupe, alors que McCartney préférerait son beau-père, Lee Eastman. Ayant également convaincu George Harrison et Ringo Starr, Klein entre en fonction. Cependant, la séparation effective des Beatles reste secrète durant plusieurs mois pour des raisons commerciales. Klein demande à Phil Spector de retoucher l'album Let It Be, provoquant la colère de McCartney qui trouve ses chansons dénaturées. C'est finalement ce dernier qui rend public la rupture, le 10 avril 1970, dans un communiqué de presse inséré dans un message promotionnel de son premier album solo. Un geste très mal pris par Lennon, qui le voit comme une tentative de promotion du premier opus de son partenaire. Dans une interview au magazine Rolling Stone, il déclare « J'ai été stupide de ne pas faire ce que Paul a fait, ce qui a servi à vendre un disque. » Et ajoutant « J'ai formé le groupe, je l'ai dissous. » En décembre, une émission de télévision britannique le déclare « Homme de la décennie » avec John Fitzgerald Kennedy et Ho Chi Minh. 1-5, carrière en solo, 1970 à 1980. 1-5-1, premières années. Après la séparation des Beatles, John Lennon se consacre à sa carrière, à sa femme et à la politique. En février 1970, il publie son troisième 45 tours en solo, Instant Karma, qui marque le début de la collaboration entre Lennon et le producteur renommé Phil Spector. Pour la promotion, Lennon effectue un retour à l'émission anglaise Top of the Pops pour la première fois depuis 1966. La chanson atteint le top 5 des classements britanniques. À cette époque, Lennon suit une thérapie par le cri primal dont les résultats sont mitigés. Au mois de septembre, il entame l'enregistrement de son premier véritable album solo, John Lennon Plastic Ono Band. Pendant 4 semaines, il s'entoure d'amis proches, Ringo Starr, son ex-compère des Beatles à la batterie, Klaus Voormann, un ami de l'époque de Hambourg, tient la basse. Enfin, le piano est assuré par Billy Preston et parfois par Phil Spector lui-même. En 1971, Lennon se rend pour la première fois dans la famille de Yoko Ono au Japon. Il est également concerné par deux batailles juridiques, la dissolution des Beatles par les tribunaux et l'obtention de la garde de Kyoko, la fille de Yoko. En juillet, il enregistre son second album, Imagine, qui lui donne véritablement une crédibilité en tant qu'artiste solo. L'album contient d'ailleurs la chanson éponyme, un hymne pacifique et utopique souvent considéré comme sa plus grande chanson. Le disque comporte aussi des pamphlets politiques, comme Gimme Some Truth, adressé à Richard Nixon, ou encore How Do You Sleep, qui attaque McCartney. Une autre chanson du disque se révèle populaire, Oh Yoko, mais Lennon renonce à la sortir en single, craignant que ce ne soit pas représentatif de l'image que j'avais de moi, du rock'n'roller dur et mordant au verbe acide. Le 31 août 1971, il part s'installer à New York et sort Happy Christmas, War is Over, en décembre avec les enfants du chœur britannique de Harlem. Si le single reste discret aux États-Unis, il a du succès au Royaume-Uni quand il y est publié un an plus tard. Par ailleurs, à travers ses nombreux engagements, John Lennon devient l'incarnation de l'activisme politique de sa génération et utilise sa notoriété en faveur de la paix ou des bonnes causes. En 1972, au milieu des ennuis avec l'administration américaine qui ne veut plus de lui sur son sol, Lennon enregistre Sometime in New York City, mais les critiques aussi bien que les ventes se révèlent mauvaises. Le 30 août, il donne au Madison Square Garden deux concerts de charité qui restent les dernières prestations complètes de sa vie, hors apparition ponctuelle. Au début de l'année suivante, Lennon perd quelque peu le fil de sa production, déclarant ainsi au sujet de son disque à venir « Ça devient un travail, et ça tue la musique. C'est comme quand on sort de l'école et qu'on n'a plus envie de lire un livre. » En avril 1973, il quitte Greenwich Village pour emménager au Dakota Building, dans un quartier nettement plus huppé. 1-5-2, le week-end perdu. À l'été 1973, les relations de John avec Yoko Ono se dégradent, au point qu'elle le met à la porte, et Lennon s'installe à Los Angeles avec May Pang, sa jeune assistante et nouvelle compagne. Il décrit cette période comme son week-end perdu, Lost Weekend, bien qu'elle dure en réalité plus d'un an. Lui qui doit régulièrement affirmer que Yoko n'a pas causé la fin des Beatles, plaisante à propos de cette période où elle était loin d'elle. On s'est séparés pendant 18 mois, Yoko et moi, et à ma connaissance, les Beatles ne se sont pas reformés pour autant. Donc Yoko n'était pas la cause de leur séparation. Toutefois, c'est bien un jeune Lennon en perdition qui s'installe en Californie, avouant lui-même être devenu complètement fou, tentant vainement de noyer dans l'alcool tout ce qu'il ressentait. Sous l'influence de May Pang, il tente cependant de renouer des liens avec son fils Julian et le rencontre avec Cynthia lors d'un séjour à Disneyland. Il lui offre par la suite une guitare et d'autres instruments et lui apprend à en jouer. Lennon renoue également brièvement avec Paul McCartney et se lie d'amitié avec plusieurs célébrités du monde musical comme Elton John et David Bowie. D'une part, il invite le premier à chanter sur sa chanson « Whatever Gets You Through the Night ». Dans la période d'errance que traverse Lennon, ce titre, publié en single en octobre 1974, connaît un grand succès et relance sa carrière sur le marché américain, c'est son unique numéro 1 solo et de son vivant. De plus, ayant parié avec Elton John qu'il l'accompagnerait en concert si le disque se classait en tête, Lennon s'exécute le 28 novembre 1974 au Madison Square Garden, où il joue également « Lucy in the Sky with Diamonds » et « I Saw Her Standing There ». Cette dernière apparition sur scène est publiée avec les autres chansons du concert sur l'album d'Elton John, Here and There. D'autre part, John Lennon coécrit la chanson Fame avec David Bowie, son premier grand succès aux États-Unis. Lennon accompagne par ailleurs Bowie dans sa reprise de Across the Universe, tandis que ce dernier reprend les premiers mots de A Day in the Life, I Read the News Today, Oh Boy, dans la chanson titre Young Americans. Durant cette période, Lennon enregistre tout de même deux albums avec le producteur Phil Spector, Walls and Bridges et Rock'n'Roll, ce dernier constitué de reprises de classiques du rock'n'roll comme Bebopalooza ou Peggy Sue. Cet album est pourtant enregistré à contre-cœur car il s'agit d'une obligation contractuelle vis-à-vis de Maurice Levy. En effet, Lennon a été accusé de plagiat en 1969 pour avoir emprunté, sur son titre Come Together, les quatre mots Air Comol Flat Top de la chanson You Can Catch Me de Chuck Berry, dont les droits revenaient à Maurice Levy. Il doit donc s'engager à enregistrer trois chansons du catalogue de Levy. Finalement, il déclare au sujet de Rock'n'Roll « Ce fut une humiliation, et je regrette de m'être trouvé dans cette position, mais je l'ai fait. » À cette époque, le rapprochement avec Julian se poursuit, celui-ci jouant de la batterie sur un titre de Walls and Bridges. 1-5-3, retraite et temporaire et assassinat. Au début de 1975, Yoko Ono accepte que Lennon revienne habiter chez elle, sous réserve qu'il respecte certaines conditions. Il accepte ainsi de se soumettre à un régime macrobiotique sain, sans viande ni alcool, mais aussi de laisser sa femme gérer entièrement ses affaires. Elle investit alors dans l'immobilier et l'élevage. Yoko finit par se retrouver enceinte, mais, la quarantaine entamée et avec le souvenir de ses précédentes fausses couches, elle voudrait avorter. Les nonnes refusent catégoriquement et parvient à la convaincre de garder l'enfant en s'engageant à s'en occuper. Ainsi, le 9 octobre, jour du 35e anniversaire de John, naît son second fils, Sean. Lennon se retire alors de la vie publique et musicale pour se consacrer à l'éducation de son fils. Sa toute dernière prestation publique a lieu le 13 juin 1975, lors d'un show télévisé en hommage à Lou Reed. Pendant cette période, Lennon dessine et écrit beaucoup, et s'occupe aussi de tâches domestiques. Son activité musicale est ralentie, mais loin d'être arrêtée, comme en témoignent les Lost Lennon Tapes, ou encore les chansons Real Love et Through the Bird, qu'il compose vers 1977 et 1978. Mais ce silence public laisse perplexe aussi bien les fans, toujours dans l'expectative, que les médias. Le 14 janvier 1978, le New Musical Express titre « Où donc es-tu, John Lennon ?» ou encore ses collègues de la scène rock. Sur cette période, Lennon s'explique dans une chanson « Watching the Wheels » lors de son retour public en 1980. Il effectue cette année-là un voyage aux Bermudes où il écrit la plupart des chansons d'un nouvel album. Il retrouve une maison de disques avec David Geffen et débute l'enregistrement le 4 août. Sorti en novembre aux États-Unis, l'album Double Fantasy, avec des titres chantés en alternance par Yoko et lui, marque le retour de Lennon et obtient, dans un premier temps, des résultats corrects. Ceci explose finalement après l'assassinat du musicien. Le 8 décembre 1980, à 22h52, après une soirée de travail en studio, et alors qu'il rejoint son appartement du Dakota Building côté de Central Park, Lennon reçoit 5 balles de revolver tirées par Mark David Chapman sous les yeux de son épouse. Emmené à l'hôpital Roosevelt en urgence, il est déclaré mort à 23h07, 15 minutes après les coups de feu. Le lendemain, Yoko annonce « Il n'y aura pas de cérémonie pour John. John aimait et priait pour l'humanité. S'il vous plaît, faites de même pour lui. Merci, Yoko et Sean. » Son corps est incinéré et ses cendres remises à Yoko. L'assassin, Mark Chapman, plaide coupable et écope d'une peine de prison à perpétuité avec 20 ans incompressible. Sa libération conditionnelle est refusée à 5 reprises, notamment parce qu'il est revenu à plusieurs reprises sur ses témoignages. Les raisons de ce meurtre demeurent floues. Certains y voient un sentiment de trahison qu'aurait éprouvé Chapman, accusant son idole de ne pas avoir tenu ses promesses de paix et d'égalité des richesses qu'il communiquait dans ses chansons. D'autres y voient une réponse à sa phrase affirmant que la popularité des Beatles dépassait celle de Jésus. Lennon avait évoqué sa mort violente en chanson de façon troublante, avec le « shoot me » répété avant chaque couplet de « Come Together », ainsi que dans une interview. Le jour même de son assassinat, il avait déclaré « Je considère que mon travail ne sera pas terminé tant que je ne serai pas mort et enterré, et j'espère que ce sera dans très très longtemps. » En l'espace de quelques mois, son dernier album, Double Fantasy, s'écoule à 7 millions d'exemplaires à travers le monde.
2. Personnalité et engagement. 2.1. Personnalité. 2.1.1. Humour et irrévérence. John Lennon se démarque par un sens de l'humour développé qui fait partie intégrante de son image et de sa personnalité. Cet humour émaille notamment les chansons des Beatles qu'il a écrites ou ses contributions. Ainsi, dans Getting Better, alors que Paul McCartney chante que tout va de mieux en mieux pour lui, Lennon rajoute que ça ne peut pas être pire, de toute façon. Sur le refrain de sa chanson Girl, il chante avec les autres Beatles « tit 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 », soit « nichon, nichon, nichon » en argot, mais personne ne le remarque. Lennon peut également se montrer plus acerbe. Lorsqu'il apprend que les professeurs étudient ses chansons en cours, il décide d'en écrire une dénuée de tout sens, « I am the Walrus », qui signifie littéralement « Je suis le Morse », en référence à Alice au Pays des Merveilles, afin de voir ce que ces connards pourront trouver là-dedans. Il écrit « Glass Onion » dans le même esprit, révélant qu'en réalité, le Morse était Paul. Lors des conférences de presse, Lennon, comme les autres Beatles, n'hésite pas à sortir quelques piques humoristiques, parfois teintées d'absurde et de non-sens. Ainsi, lorsqu'on lui demande en 1964 d'où vient le nom Beatles, il répond « J'ai une vision lorsque j'avais 12 ans. J'ai vu un homme sur une tarte flamboyante qui m'a dit « Vous êtes les Beatles avec un A ». Cet humour en interview devient une habitude des Beatles et perdure pendant toute la Beatlemania. En 1966, lors d'une conférence de presse à l'occasion d'un concert au Candlestick Park, on leur demande ce qui a inspiré Eleanor Rigby, ce à quoi Lennon répond un brin sarcastique et provoquant les rires lors de la salle « Deux homos, deux tapettes ». Par la suite, il tempère et relativise cet humour en interview. On nous posait des questions blagues et on faisait des réponses blagues, mais en réalité, on n'était pas drôle du tout. Ce n'était que de l'humour de potache, celui qui fait rire à l'école. Cet humour peut également se faire irrévérencieux. En novembre 1963, lorsque les Beatles ont l'honneur de jouer devant la famille royale, Lennon lâche une pique humoristique avant d'entonner Twist and Shout au grand dam du manager du groupe, Brian Epstein, qui craignait un tel débordement. Pour notre prochain titre, les gens installés dans les places les moins chères veulent-ils frapper dans leurs mains, et tous les autres, agitez vos bijoux. Lennon utilise l'humour dans ce genre de situation intimidante pour faire face à la pression. Lorsque les Beatles reviennent donner une série de concerts à Liverpool, ils sont peu sûrs d'eux, craignant le jugement que pourraient leur porter tous les gens qu'ils connaissent sur place. Lors d'une apparition au balcon, face à la foule, Lennon se fend alors d'un salut nazi que personne ne semble remarquer. Il aime aussi amuser ses partenaires sur scène en imitant les handicapés psychomoteurs, une plaisanterie récurrente en 1964 lorsqu'il demande au public de taper dans ses mains en frappant du pied. En août 1965, lorsque les Beatles deviennent le premier groupe de rock à donner un concert dans un stade, le Shea Stadium de New York, devant une assistance record, Lennon met ses camarades à l'aise d'un grand renfort de mimique et gesticulation, martyrisant notamment un orgue farfissa avec ses coudes au moment de l'interprétation de I'm Down en jetant des clins d'œil amusés à George Harrison. McCartney témoigne, c'était un des trucs bien avec John. Quand un concert s'avérait un peu délicat, et celui-là l'était sans le moindre doute, ses vieux réflexes de comique ressurgissaient toujours. 2-1-2, croyance et spiritualité. John Lennon connaît une période où il s'oppose au christianisme en réaction à son éducation chrétienne. Dans la chanson Girl, il glisse des allusions à cette religion sur la souffrance nécessaire pour atteindre le paradis. Il remet ainsi en cause cette notion dans les deux livres qu'il écrit, où il s'en prend entre autres à l'église. J'y suis allé fort contre l'église, mais bien que ça ait été criant, ça n'a jamais été relevé. Lennon s'ouvre à d'autres spiritualités dès le milieu des années 1960, lorsqu'il lit l'ouvrage The Psychedelic Experience de Timothy Leary, Richard Alpert et Ralph Metzner, inspiré du livre des morts issu du bouddhisme tibétain. Cet ouvrage, profondément lié à l'usage du LSD, inspire à Lennon l'une de ses premières chansons aux tonalités psychédéliques, Tomorrow Never Knows, qui clôt l'album Revolver en 1966. Cependant, Lennon déclare en 1972 qu'il n'a jamais lu le livre des morts tibétains et s'est contenté de cette adaptation. Comme les trois autres membres du groupe, John Lennon a également rencontré Maharishi Mahesh Yogi en août 1967 et a participé à un week-end de formation personnelle à la méditation transcendantale. En 1968, le groupe se retire en Inde dans l'ashram du Maharishi. Ils y méditent et composent une grande partie des chansons de l'album blanc. Cependant, Lennon s'est finalement fâché avec le maître spirituel dont il pensait avoir percé les faiblesses. Il l'exprime dans sa chanson Sexy Sadie, parue sur cet album. Cette dispute n'a cependant pas empêché Lennon de continuer à pratiquer la méditation. Dans le même esprit, il s'intéresse au mantra et au yoga. John Lennon se passionne pour certains domaines d'aspiration mystique ou occulte, tels les tarots ou la numérologie. Il attribue en particulier une valeur importante au chiffre 9, qu'il considère comme étant intimement lié à sa vie. Né un 9 octobre, tout comme son fils, et ayant vécu au numéro 9 de Newcastle Road à Liverpool, il l'utilise dans plusieurs titres de ses chansons. One After 909, Revolution 9, sur lequel il assène en boucle Number 9, Number 9, ou encore Number 9 Dream, en solo. Après sa mort, les aficionados de la numérologie trouvent encore d'autres signes. Il a été assassiné sur la 72e avenue, 7 plus 2, et, s'il est mort un 8 décembre à New York, le décalage horaire impliquait que c'était déjà le 9 à Liverpool. Hasard ou non, Apple a choisi la date du 9 septembre 2009, 090909, pour publier les versions remasterisées de tous les albums des Beatles. En 1970, pour se débarrasser du poids de la mort de sa mère et de ses problèmes d'héroïne, Lennon entame une thérapie primale avec le docteur Arthur Janov après avoir lu l'un de ses livres. En mal de publicité, Janov envoya en effet un ouvrage aux célébrités du moment, comme Peter Fonda ou les Rolling Stones. Surtout attiré par la perspective de ce cri libérateur, John, accompagné de Yoko, suit un traitement de choc où il doit replonger dans son enfance et recevoir des massages vigoureux pour faire cesser ses allaitements névrotiques. Après 3 semaines, le docteur Janov lui offre la perspective d'une entrée aux États-Unis pour raisons médicales, ce qui enchante le musicien. Le couple se rend ainsi en Californie, et le traitement suit son cours, qui, d'après Lennon, renforce ses liens affectifs avec Yoko. Cela dure jusqu'à une dispute entre Lennon et Janov, qui voulait le filmer pendant une séance collective de cris. L'accusant de chercher le scoop, Lennon entre progressivement en froid avec lui, et les critiques de Ono, de plus en plus régulières, le convainquent de mettre un terme à la thérapie. Il quitte ainsi Janov au moment où son visa américain expire. Incomplète, la thérapie aura duré quelques mois seulement. Les vestiges en 100% audibles sur son premier album, paru fin 1970, John Lennon Plastic Ono Band. Par exemple, sur la chanson Mother, il se lamente à propos de ses parents et martèle en hurlant à la fin du morceau « Mama don't go, daddy come home, maman ne t'en va pas, papa revient à la maison ». De ce traitement exigeant, Lennon sort dans un plus mauvais état qu'à son arrivée. Lennon et Ono sont également à l'origine du concept de baggisme. Leur idée est de critiquer les préjugés fondés sur les apparences et de ne considérer que le message de l'interlocuteur en lui parlant comme s'il était dans un sac. Lennon définit le baggisme comme une forme de communication totale. Il mentionne par ailleurs cette pratique dans plusieurs chansons, notamment Give Peace a Chance et The Ballad of John and Yoko. 2.1.3 Consommation de drogue. Le premier contact de Lennon avec la drogue remonte à la période où les Beatles jouaient à Hambourg. Aussi bien Astrid Kircher que certains clients des clubs avaient pour habitude de leur donner des amphétamines qui leur permettaient de tenir le coup pendant les 8 heures qu'ils devaient assurer presque chaque nuit. Lors de la première et triomphale tournée des Beatles à travers les États-Unis, à l'été 1964, Bob Dylan les initie à la marijuana. Celui-ci croit qu'ils sont habitués, ayant compris les vers « I can't hide »,« Je ne peux pas le cacher », de la chanson « I want to hold your hand », comme « I get high »,« Je plane ». Dans une interview à Playboy, Lennon a expliqué que, durant le tournage de Help, les Beatles fumaient de la marijuana au petit déjeuner. Sa première épouse a également déclaré dans une interview en 1995 que leur mariage avait commencé à battre de l'aile à cause de la notoriété du groupe et de l'usage de plus en plus important de drogue auquel se livrait Lennon. Lennon a également consommé du LSD comme le reste du groupe. Il a également connu avec Yoko Ono une addiction à l'héroïne pendant plusieurs années. En août 1969, il tente un sevrage total afin de concevoir un enfant viable, sans succès. Le sevrage échoue et Yoko fait une fausse couche. Dans une interview donnée au magazine Rolling Stone en 1971, il explique qu'il en prenait avec elle lorsqu'il souffrait, à cause de ce que les Beatles et les autres leur faisaient. Il y déclare également que c'est à cause du nombre de bad trips qu'il a vécu sous LSD qu'il a décidé d'arrêter ce genre de drogue. Le couple Lennon a affirmé ne plus avoir consommé de drogue depuis la naissance de Sean en 1975, même si Yoko a avoué une brève rechute à la fin de la décennie. Les substances psychotropes ont une influence notable sur la créativité des Beatles, et sur celle de Lennon en particulier. Ainsi, à partir de 1965, et Day Tripper notamment, il écrit de plus en plus de chansons faisant directement référence à la consommation de stupéfiants. Tomorrow Never Knows, She Said, A Day in the Life, etc. Par la suite, chacun cherche des allusions aux drogues dans les chansons du groupe. Le titre Lucy in the Sky with Diamonds est fréquemment associé au LSD, en référence à ses initiales, alors que la Lucy en question était une camarade de classe du fils de Lennon. En revanche, Paul McCartney a expliqué qu'il était assez évident que la drogue avait inspiré le texte de la chanson. Les stupéfiants, en particulier le LSD, modifient aussi la façon de fonctionner du groupe. Jusque-là considéré comme le leader des Beatles, Lennon se retire progressivement pour laisser McCartney prendre les rênes. L'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band est ainsi attribué principalement à McCartney, Lennon ayant expliqué par la suite qu'il était trop occupé à détruire son ego, un des effets présumés du LSD. C'est ensuite l'héroïne qui contribue à l'éloignement de Lennon vis-à-vis du groupe, le plongeant progressivement, d'après McCartney, dans la paranoïa. Comme beaucoup de célébrités des années 1960, Lennon n'échappe pas aux ennuis judiciaires en raison de sa consommation de drogue. En octobre 1968, alors qu'il habite Londres avec Yoko, la brigade des stupéfiants perquisitionne à son domicile et trouve une faible quantité de résine de cannabis. Lennon était persuadé de ne rien détenir, ayant été averti 3 semaines auparavant de la possibilité de perquisition. Il décide de plaider coupable et s'en tire avec une caution de 400 livres à payer pour lui et pour Ono. Le policier qui a mené la perquisition, le sergent Norman Pilcher, est connu à l'époque pour traquer les célébrités pop, ayant déjà réussi à confondre Donovan, Marianne Faithfull et Rolling Stones pour les mêmes raisons. Cet épisode met un terme à l'immunité qui entourait les Beatles jusque-là, George Harrison étant aussi pris par la suite. Ce dernier parle même d'un complot de l'establishment. Plus tard, Norman Pilcher est jugé coupable de parjure dans d'autres circonstances. Quoi qu'il en soit, cette affaire sera retenue contre John Lennon lorsque celui-ci voudra s'établir définitivement aux États-Unis dans les années 1970. 2.2. Vie sociale. 2.2.1. Un caractère complexe. Si Lennon se montre parfois très attentionné, cette attention pouvant aller jusqu'à l'obsession dans le cas de Yoko Ono, il lui arrive également d'avoir des réactions violentes à l'encontre de ses proches. Lors de sa rencontre avec Cynthia Powell, lorsque celle-ci décline une invitation de Lennon au prétexte qu'elle sort avec un autre garçon, il lui réplique « Merde, je t'ai pas demandé de m'épouser, non ?» De même, il va jusqu'à la frapper lorsqu'il la surprend en train de danser avec son ami Stuart Sutcliffe. La forte tendance à la jalousie du chanteur contraste avec sa propre tendance à l'adultère, dont il se rend coupable à plusieurs reprises durant la carrière des Beatles. Il évoque cet aspect de sa personnalité en chanson, notamment dans l'album Rubber Soul avec Norwegian Wood, This Bird Has Flown et Run For Your Life. Cet aspect de la personnalité de l'artiste ne transparaît pas uniquement dans sa vie sentimentale, car il lui arrive de s'emporter avec ses amis et collègues de travail. Il exprime ainsi en 1980 une déception à propos de certaines de ses compositions de la période Beatles,
rejetant la faute sur Paul McCartney qui, selon lui, tentait inconsciemment de détruire ses chansons, en particulier Across the Universe et Strawberry Fields Forever. Lennon va jusqu'à refuser de participer à l'enregistrement de Maxwell Silverhammer, qu'il qualifie de chanson pour grand-mère. Dans une interview à Rolling Stone, parue après la dissolution du groupe, il laisse aller ses rancœurs contre Paul McCartney et Brian Epstein, accusant ce dernier d'avoir sciemment volé le groupe d'une grande partie de ses revenus. Finalement, John Lennon raconte lui-même son histoire et son cheminement vers le pacifisme dans le pont de Getting Better, sa contribution à la chanson de Paul McCartney, en plus du fameux Can't Get No Worse du refrain. Il s'en explique dans l'interview de 1980 pour Playboy. Tout ce « I used to be cruel to my woman, I bit her and kept her apart from the things that she loved », c'était moi. J'étais cruel avec ma femme et, physiquement, envers toute femme. J'étais un cogneur. Je ne pouvais pas m'exprimer, je cognais. Je me battais avec les hommes et je frappais les femmes. C'est pour ça que je suis constamment branché sur la paix. Dans cette chanson de 1967, quatrième plage de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il ajoute d'ailleurs « Man, I was mean, but I'm changing my sin, and I'm doing the best that I can. Mec, j'étais méchant, mais je change de décor et je fais du mieux que je peux. » 2-2-2, relation avec les Beatles. Chaque membre des Beatles a souvent évoqué la très forte amitié qui liait le quatuor de ses débuts au plus fort de la Beatlemania. Très soudés et se considérant dans l'œil du cyclone, créant un océan d'empathie au milieu de la folie qui les entourait en permanence, les Beatles sont même surnommés le monstre à quatre têtes au début des années 1960. Ringo Starr a par exemple évoqué une incroyable intimité, rien qu'à quatre types qui s'aimaient les uns les autres, c'était sensationnel. Depuis le départ aussi, une très forte complicité lie John à Paul McCartney, son partenaire d'écriture, son alter ego qui explique « Le fait est que nous sommes vraiment la même personne, nous sommes juste les quatre parties d'un même tout ». Après la dissolution du groupe, les relations de Lennon varient grandement avec les différents membres. Seul Ringo Starr conserve continuellement de bonnes relations avec lui. Il lui compose même certaines chansons durant sa période de tension avec Yoko Ono. De même, il participe, comme Harrison et McCartney, au troisième album de Starr, Ringo. Cependant, si les quatre Beatles participent à l'album, ils ne sont à aucun moment tous réunis. John et George Harrison conservent de bonnes relations jusqu'au départ de Lennon pour les États-Unis. Néanmoins, lorsque Harrison part en tournée à New York, Lennon accepte de le rejoindre sur scène. Cependant, leur relation se tend lorsque Lennon ne se présente pas à la réunion qui doit légalement dissoudre le groupe. De même, lorsqu'en 1980, Harrison publie son autobiographie « I Me Mine », Lennon s'exaspère de ne pas y être cité et n'hésite pas à lancer quelques piques à ce sujet dans une interview de Playboy. Mais c'est avec Paul McCartney que les relations se tendent le plus. Dans son album « Imagine », Lennon lance une violente chanson à son égard, « How Do You Sleep ?», dans laquelle il attaque violemment son ami pour son conformisme, prétend qu'il n'a rien fait à part Yesterday, et chante « Those freaks were right when they said you were dead. Ces maboules avaient raison de dire que tu étais mort », une référence à la rumeur sur la mort de McCartney lancée en 1969. Par la suite, Lennon déclare cependant s'être plus attaqué à lui-même qu'à Paul. Leur relation se réchauffe en 1974 et en 1975. McCartney raconte que la dernière fois qu'ils se sont retrouvés ensemble chez Lennon, ils ont regardé l'émission Saturday Night Live, dans laquelle Lorne Michaels proposait de réunir le groupe pour $3000. Dans son interview à Playboy, Lennon raconte que, sur le moment, ils ont envisagé de se rendre au studio de télévision pour faire une blague, mais qu'ils étaient trop fatigués. Le résultat a été imaginé dans le téléfilm Two of Us, sorti en 2000. Après l'assassinat de Lennon, McCartney est sous le choc. Sa dernière tentative de réconciliation s'est soldée par un échec, John le mettant littéralement à la porte. Cependant, peu avant sa mort, Lennon avait déclaré « Je n'ai jamais demandé qu'à deux personnes d'être mes partenaires de travail. L'une était Paul McCartney et l'autre Yoko Ono. Pas mal, non ?» Par la suite, McCartney rend plusieurs fois hommage à son ami en chanson. En 1982, il compose « Here Today » en son honneur, paru sur Tug of War, le premier album qu'il publie après la mort de Lennon. McCartney lui rend aussi hommage en concert. À partir de 2008, il reprend sur scène « A Day in the Life » et « Give Peace a Chance ». C'est l'intéressé qui résume le mieux ses rapports avec les membres du groupe. Lorsqu'on lui demande en 1980 si ceux-ci sont ses pires ennemis ou ses meilleurs amis, Lennon répond que ce ne sont ni l'un ni l'autre, et qu'il n'en a vu aucun depuis un certain temps. Il déclare également « Je continue à adorer ces mecs. Les Beatles, c'est fini, mais John, Paul, George et Ringo, ça continue. » 2-3, engagement et polémique. 2-3-1, engagement pacifiste et politique. Si les idées pacifistes de Lennon sont déjà visibles dans le film How I Won the War, sorti en 1967, il n'écrit sa première chanson ouvertement politique que l'année suivante, Revolution, publiée en single avec les Beatles. Il y indique en substance sa façon de faire la révolution, selon lui davantage une question d'état d'esprit, et en tout cas sans violence. Sa rencontre avec Yoko Ono le pousse à exprimer plus loin ses idées. L'année 1969 le voit s'activer sur tous les fronts médiatiques, accompagné partout par celle qui va devenir son épouse. Dès leur lune de miel à Amsterdam, en mars, Lennon et Ono organisent un bend-in for peace dans leur chambre d'hôtel où, en pyjama, dans leur lit, ils reçoivent des journalistes pendant une semaine pour promouvoir la paix dans le monde, obtenant ainsi une visibilité mondiale. Lennon organise un deuxième bend-in en juin à Montréal. Ils ont en effet dû organiser à leur premier choix, les États-Unis, car Lennon y était interdit d'accès. Au Canada, Lennon et ses amis enregistrent Give Peace a Chance dans leur chambre d'hôtel le 1er juin 1969. La chanson est reprise par des manifestants opposés à la guerre à Washington DC le 15 octobre suivant. Lennon, qui suit les événements de chez lui à Londres, décrit cette journée comme l'une des plus belles de sa vie. Toujours en chanson, Lennon se propose de soutenir la candidature de Timothy Leary, le pop du LSD, au poste de gouverneur de Californie, en composant Come Together, en accord avec le thème de la campagne de Leary, Come Together, Join the Party. Cependant, il décide finalement de garder la chanson et l'enregistre avec les Beatles pour le publier en single. À la fin du mois de novembre 1969, John pousse son engagement jusqu'à renvoyer son insigne de membre de l'Empire britannique, alors détenu par sa tante Mimi Smith, à la reine d'Angleterre, en signe de protestation contre certains engagements de l'armée britannique. Si certains y voient une manœuvre publicitaire, Lennon reçoit dans cette affaire le soutien du philosophe Bertrand Russell. Il se permet même une petite pique à destination de la reine, dans un mot accompagnant sa médaille. « Votre Majesté, je renvoie mon MBE pour protester contre l'engagement de la Grande-Bretagne dans le conflit Nigeria-Biafra, contre notre soutien des États-Unis au Vietnam et contre les mauvaises ventes de Cold Turkey. Avec amour, John Lennon. » En décembre, Lennon et Ono lancent la campagne « War is over, la guerre est finie ». Le couple diffuse en plusieurs langues et dans le monde entier le message « La guerre est finie si vous le voulez, joyeux Noël, John et Yoko ». Le même mois, le couple Lennon participe à une manifestation dédiée à James Enranti, présumé exécuté par erreur en 1962. Lennon s'engage également aux côtés d'autres activistes et se radicalise progressivement. Au mois de janvier 1970, il se rase la tête et vend ses cheveux aux enchères pour soutenir Michael Hicks, activiste et révolutionnaire noir de Londres. Le mois suivant, Lennon apparaît les cheveux courts à l'antenne dans l'émission Top of the Pops, où il interprète son nouveau single Instant Karma, lui aussi véhiculant son message de paix. L'année suivante, il se lie d'amitié avec Jerry Rubin et A.B. Hoffman, fondateurs du Youth International Party, mouvement de gauche antiraciste et anti-guerre. Lennon accepte ainsi de donner un concert de soutien lorsque des détenus noirs sont abattus au cours d'émeutes en prison. Le mois suivant, lorsque le poète John Sinclair est arrêté pour avoir vendu deux joints de marijuana à un policier sous couverture, Lennon lui dédie une chanson et participe à un concert de soutien le 10 décembre 1971. Il apparaît sur scène aux côtés de Yoko Ono, Phil Hooks, Stevie Wonder et d'activistes pacifistes. Sinclair est libéré trois jours plus tard. C'est à l'occasion de ce concert que le FBI commence à s'intéresser au cas de Lennon, des agents dissimulés dans la foule ayant enregistré tout ce qui s'y passait. En 1972, soit l'année suivante, Lennon écrit la chanson Angela pour soutenir la campagne visant à faire libérer Angela Davis, activiste proche des Black Panthers. Un ancien agent du MI5, David Shaler, a également déclaré que Lennon avait donné de l'argent à l'Irish Republican Army à la suite du Bloody Sunday. Choqué par l'événement, le chanteur a en effet expliqué qu'il préférait être du côté de l'IRA plutôt que de celui de l'armée britannique. Lennon écrit deux chansons en référence à cet épisode, The Luck of the Irish et Sunday Bloody Sunday, où il explique son soutien aux catholiques, paru sur l'album Sometime in New York City en 1972. Cette année-là, Lennon aurait également financé le Workers' Revolutionary Party, parti trotskiste britannique. Les dons du chanteur à l'IRA et au WRP s'élèveraient au total à 45 000 livres. Ces informations, révélées seulement en 2000 dans la presse, ont été fermement démenties par Yoko Ono. 2-3-2, tentative d'expulsion des États-Unis. En 1972, craignant que les activités pacifistes et le soutien de John Lennon au démocrate George McGovern ne coûtent sa réélection à Richard Nixon, le gouvernement américain tente de chasser le chanteur du pays. En février, en effet, John Lennon est cité dans un rapport confidentiel de la Commission de la Sécurité Intérieure au sujet des militants de gauche en pleine campagne anti-Nixon. Ces gauchistes, notamment Rennie Davis, déjà arrêté pour des participations à des actions de ce type lors du rassemblement du Parti démocrate à Chicago en 1968, prévoit d'utiliser John Lennon afin de recruter le plus de gens possible. En conséquence, Nixon lui-même aurait personnellement demandé à ce que Lennon soit désormais surveillé. De plus, le sénateur Storm Thurmond considérerait que l'expulsion pourrait être une contre-mesure stratégique contre Lennon. Par ailleurs, certaines chansons du musicien sont interdites et il est constamment suivi, selon ses dires, par des agents du FBI, qui ne cherchent même pas à se cacher.
J'ouvrais ma porte et hop, il y avait un gars en faction de l'autre côté de la rue. Il me suivait partout, tout le temps. Et surtout, il tenait à ce que je m'en rende compte. Les procédures pour l'expulser débutent le mois suivant, se fondant sur un délit de possession de cannabis datant de 1968, alors que Lennon résidait encore à Londres. S'ensuivent 4 ans de procès. Le 16 mars 1972, Lennon reçoit son ordre d'expulsion du territoire américain. Toutefois, il parvient à rester sur le sol américain grâce à son avocat, Leon Wills, et au soutien de nombreuses personnalités, via une pétition signée entre autres par Bob Dylan, Fred Astaire et même John Lindsay, alors maire de New York. Les problèmes de Lennon avec l'administration américaine ne l'empêchent pas de continuer son action. Il participe ainsi en mai à une manifestation pacifiste à Manhattan. En juin, il publie un nouvel album, Sometime in New York City, de loin son disque le plus engagé politiquement. Le 23 mars 1973, Lennon est à nouveau prié de quitter le pays dans les 60 jours. Ono et lui répondent, le 1er avril, par un discours exprimant leur volonté de créer un état conceptuel sans frontières, ni territoire, ni passeport, mais uniquement un peuple, l'Utopia. Cette nouvelle utopie, la première étant celle de Thomas More dans son livre L'Utopie, a pour hymne national un silence de quelques secondes, et tous ses citoyens en sont ambassadeurs. Cependant, ce concept ne prend pas auprès du public et tombe dans l'oubli. Le 27 juin, le couple apparaît aux audiences du procès du scandale du Watergate. Par la suite, les successeurs de Nixon, Gerald Ford puis Jimmy Carter, se montrent moins impliqués dans le combat contre Lennon. Ce dernier est même présent au gala d'investiture de Carter. Finalement, il reçoit sa carte de résident permanent en juillet 1976, avec la possibilité de devenir citoyen américain après 5 ans. Le récit de ces événements a fait l'objet d'un documentaire, Les USA contre John Lennon, sorti en 2006. 3. Œuvres. 3.1. Musique. 3.1.1. Chant. Si John Lennon chante une grande partie du répertoire des Beatles, il n'en déteste pas moins sa voix. George Martin se rappelle qu'il avait un dégoût inné pour sa propre voix, que je n'ai jamais compris. Il me disait toujours de faire quelque chose de sa voix, mettre quelque chose par-dessus, la rendre différente. De fait, le producteur effectue régulièrement des retouches ou des corrections pour satisfaire le chanteur. Lennon est toutefois capable de performances vocales spectaculaires. Ainsi, enrhumé lors de l'enregistrement de l'album Please Please Me, bouclé en 12 heures d'affilée, il préserve sa voix jusqu'au dernier moment, avant de hurler sur Twist and Shout, tout en étant conscient qu'il s'abîme la voix pour les jours qui suivent. On voit aussi, dans la série Anthology, George Martin écouter la bande de la première prise d'A Day in the Life et s'émouvoir. Écoutez la voix de John, elle me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute. Mais surtout, du début jusqu'à la fin du groupe, la complémentarité des voix de John Lennon et de Paul McCartney, la justesse, la finesse et le timbre des harmonies sont pour beaucoup dans le succès des Beatles. Avec les débuts de sa carrière solo, Lennon compose davantage de ballades, comme Imagine, sur lesquelles sa voix s'illustre de façon plus douce que sur les premiers rock des Beatles. Au début des années 1970, le début de sa thérapie du cri primal a des effets qui se ressentent sur les chansons de l'album John Lennon Plastic Ono Band, comme Mother ou I Found Out, où il hurle littéralement. Mais il avait déjà été l'auteur de performances aussi extrêmes avant d'entamer cette thérapie. Un an plus tôt, sur Cold Turkey, il explore les limites de sa voix pour rendre compte des affres du sevrage, expliquant avoir été inspiré par Yoko Ono. 3.1.2. Instruments. Le premier instrument que Lennon apprend à jouer est l'harmonica. Son oncle George Smith lui en offre un dans son enfance et lui apprend à en jouer. L'instrument revient beaucoup dans les premières prestations des Beatles à Hambourg et au Cavern Club, et devient un effet récurrent de leurs premiers enregistrements, revenant ainsi sur plusieurs singles tels que Love Me Do, Please Please Me ou From Me To You. Lennon abandonne par la suite cet instrument, qu'il utilise pour la dernière fois en studio sur I'm a Loser. Il considère que l'effet créé est désormais sans surprise. L'instrument par excellence de John Lennon est la guitare, à laquelle il est initié dans sa jeunesse par sa mère Julia, qui lui enseigne tout d'abord le banjo. Sur la plupart des titres des Beatles, il tient ainsi la guitare rythmique, tandis que George Harrison est guitariste solo. S'il utilise une guitare acoustique avec les Quarrymen, il utilise majoritairement des guitares électriques avec les Beatles. L'une d'entre elles, sa Rickenbacker 325, est devenue emblématique et a été reproduite comme contrôleur de jeu pour The Beatles Rock Band, sorti en 2009. Il a aussi rendu célèbre un autre modèle de guitare, l'Epiphone Casino, notamment utilisé dans les clips de Hey Jude et Revolution en 1968, ainsi que lors du concert sur le toit d'Apple en 1969. Lennon joue de très rares fois de la basse, notamment sur les titres Helter Skelter, Let It Be et The Long and Winding Road, dans les cas où Paul McCartney est au piano ou à la guitare électrique. Il est aussi amené à jouer de l'orgue, comme dans la séquence de The Night Before du film Help, ou lors du concert au Shea Stadium de New York en 1965 pour l'interprétation de I'm Down. Durant sa carrière solo, Lennon montre également un certain talent pour le piano, instrument déjà utilisé lors des séances de composition avec Paul McCartney, par exemple pour « I Want to Hold Your Hand », né d'une improvisation au piano. Le titre, souvent considéré comme le plus emblématique de Lennon en solo, « Imagine », est aussi joué au piano. Durant cette époque, Lennon s'essaie également à divers bricolages sonores avec Yoko Ono, aboutissant à des morceaux d'avant-garde et des albums de musique expérimentale tels que « Two Virgins ». Il en est de même au sein des Beatles, où Lennon, s'il n'est pas le premier à s'intéresser à l'avant-garde, est le premier à placer un morceau du genre sur un album, le Revolution 9 de l'album blanc. 3-2, écriture et art. 3-2-1, auteur-compositeur. Durant la carrière des Beatles, Lennon signe toutes ses chansons de la marque Lennon-McCartney, son partenaire faisant de même, qu'une chanson était écrite en collaboration ou non. Formé à la suite de la rencontre des deux musiciens dès 1957, le duo écrit ses premières chansons lors des sessions chez Paul ou M&M Dips. Il n'est pas rare que l'un ait un titre en tête, auquel cas l'autre rajoute des couplets, compose un pont ou un solo. Leurs premiers hits internationaux, From Me To You, She Loves You ou I Want To Hold Your Hand, sont quant à eux écrits en totale collaboration. Les compositions de ce type sont plus fréquentes au début de la carrière. Dans le cas où l'idée de départ vient de Paul McCartney, Lennon apporte souvent un contrepoint à l'optimisme des chansons de son partenaire. Ainsi ajoute-t-il une touche de tristesse ou d'impatience à We Can Work It Out et Michelle. Sur le contenu des chansons, Lennon a généralement plus tendance à parler de lui-même, là où McCartney a davantage de facilité à imaginer les situations. Parmi ses influences en termes d'écriture, Lennon cite volontiers Bob Dylan, dont les textes l'ont poussé vers plus d'introspection et d'analyse de ses propres sentiments. Progressivement, John et Paul préfèrent composer séparément, ce qui ne les empêche pas de s'aider et de compléter leurs chansons. En 1967, McCartney ajoute ainsi une transition au sein de A Day in the Life de Lennon, tandis qu'ils élaborent ensemble With a Little Help from My Friends. De même, I've Got a Feeling est un mélange de chansons inachevées de chacun. Par ailleurs, si McCartney écrit les chansons les plus populaires du groupe, Hey Jude, Yesterday, c'est Lennon qui est à l'origine des compositions les plus abouties sur le plan musical. Strawberry Field Forever, I Am the Walrus. Après la fin du groupe, Lennon reconnaît volontiers avoir écrit quelques chansons médiocres dans un but plutôt alimentaire, comme Little Child ou Anytime at All. Avec le temps, il écrit des chansons plus personnelles. I'm a Loser décrit ainsi ses sentiments du moment. De même, il compose Nowhere Man alors qu'il se sent déprimé et homme de nulle part. Et In My Life, où devenu une star planétaire à 25 ans, il se retourne avec nostalgie sur son passé. Il lui arrive également d'exprimer ses craintes quant à sa vie sentimentale, dans Run For Your Life, où il menace sa femme de la tuer en cas d'adultère, un acte dont il ne se prive pourtant pas en tournée, ou Don't Let Me Down, cri déchirant de Lennon à Yoko Ono, l'incitant à rester auprès de lui. Par ailleurs, il compose à partir de 1966 des chansons aux tonalités psychédéliques et plus inspirées par la drogue, telles que Lucy in the Sky with Diamonds ou I'm the Walrus, au texte rempli de non-sens. D'autres créations, comme I Want You, She's So Heavy ou You Know My Name, Look Up the Number, sont plus minimalistes dans leurs textes. Si, au sein des Beatles, John Lennon ne s'est permis qu'une seule chanson politique, Revolution, il lance sa carrière solo avec Give Peace a Chance, un titre à vocation contestataire et pacifiste. Son engagement politique émaille ainsi toute sa discographie en solo, avec des hymnes tels que Power to the People, Imagine et Working Class Hero, ou encore des chansons de soutien à diverses causes. Dès son premier album, John Lennon Plastic Ono Band, Lennon tourne la page des Beatles en les citant sur la chanson God, parmi les symboles auxquels il ne croit plus. Les textes de l'album contiennent déjà les thèmes qui le seront chers par la suite, étude de soi-même et de ses doutes, et sa relation avec Yoko Ono, à qui il consacre régulièrement des chansons. Il s'essaie également à d'autres façons d'écrire, moins conventionnelles, les chansons journalistiques, écrites à la va-vite sur l'album Sometime in New York City, les berceuses, Beautiful Boy, à destination de son fils Sean, ou les chants de Noël, Happy Christmas, War is Over. Mûri, Lennon s'inspire de ses lectures. Ainsi, Mind Games est une référence à un livre de psychologie traitant de l'élévation de conscience. De même, il explore le féminisme, sous l'influence de Ono, via Woman is the Nigger of the World, et surtout Woman, qu'il écrit après avoir lu notamment The First Sex d'Elizabeth Gould Davis. Lennon se laisse aussi volontiers aller à la nostalgie, mais règle aussi ses comptes, parfois durement, avec Paul McCartney, How Do You Sleep, avant de se retourner contre Alan Klein, Steel and Glass. Enfin, il n'oublie pas ses racines, rock'n'roll, et compose encore quelques titres de ce style, comme It's So Hard, qu'il enregistre avec le saxophoniste renommé King Curtis. 3-2-2, écrivain et artiste. John Lennon commence à écrire et dessiner de façon créative assez tôt, à la suite des incitations de son oncle. Il rassemble des histoires, ses poèmes, ses bandes dessinées et ses caricatures dans un cahier d'exercice de son école, qu'il baptise le Daily Howl et qu'il montre à ses amis pour les amuser. L'ensemble est truffé de jeux de mots, les dessins qu'il crée représentent souvent des personnes handicapées, pour lesquelles John éprouve une certaine fascination, voire, d'après George Harrison, de la peur, et les histoires qu'il raconte sont satiriques à souhait. En 1964, Lennon publie son premier ouvrage, In His Own Right, un recueil de dessins, de poèmes et de courtes histoires pleines d'humour et de non-sens, dont certaines sont reprises du Daily Howl. C'est ma forme d'humour. Je masquais mes sentiments derrière du charabia. Par exemple, il joue sur la sonorité des mots, à l'image de son livre, In His Own Right, au lieu de Right. Ou encore, son texte introductif, I was born on the 9th of October 1914. Bored au lieu de born, ce qui donne je me suis ennuyé le au lieu de je suis né le, October au lieu de October. Le livre est apprécié de la critique, ce qui surprend son auteur. À mon grand étonnement, les critiques l'ont aimé. Je ne pensais pas que le livre serait ne serait-ce que critiqué. Je ne pensais pas que les gens accepteraient le livre comme ils l'ont fait. Pour dire vrai, ils l'ont considéré plus sérieusement que je l'ai fait pour ma part. Tout a commencé comme une blague pour moi. Suite au succès du premier, Lennon publie un second ouvrage, A Spaniard in the Works, en 1965. Le livre contient notamment une histoire sur Sherlock Holmes, qu'il déclare être la chose la plus longue qu'il ait jamais écrite. Dans sa façon de travailler, Lennon avoue être chaotique et dissipé. Mon esprit ne s'attarde pas longtemps sur le même sujet. J'oublie qui j'ai mis en scène, je me perds, j'en ai marre, et ça m'ennuie. C'est pour ça que je tue généralement tout le monde. Je les ai tous tués dans le premier livre, mais dans le deuxième, j'ai essayé de ne pas le faire. J'ai essayé de progresser. Lennon reste par ailleurs très influencé par Lewis Carroll et Ronald Stearns, et nourrit, à l'époque, l'ambition d'écrire un livre pour enfants. A Spaniard in the Works se vend cependant moins bien que le premier. Ces deux livres inspirent une pièce de théâtre, The John Lennon Play in His Own Right, mise en scène en 1968. La première représentation de la pièce marque l'une des premières apparitions publiques de Lennon au bras de Yoko Ono. Lorsqu'il se retire de la vie publique pour s'occuper de son fils Sean, Lennon se consacre à nouveau à l'écriture et au dessin. Ses œuvres sont publiées dans différents ouvrages posthumes tels que Skywriting by Word of Mouth ou encore Brill Love the Drawing for Sun. 3-3, discographie. 3-3-1, avec les Beatles. La discographie de John Lennon est tout d'abord commune avec celle des Beatles et débute avec le premier album du groupe, Please Please Me, en 1963, auquel succède rapidement With the Beatles la même année. Si ces deux albums contiennent un certain nombre de reprises, ils comprennent également les premières chansons signées Lennon-McCartney. Plusieurs albums se succèdent durant la Beatlemania, au rythme effréné de deux albums par an jusqu'à la sortie en 1965 de Rubber Soul, qui marque un tournant pour le groupe. Il s'agit également du début de la période hippie de Lennon, illustrée par la chanson The World. Les deux albums suivants, Revolver en 1966 et Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967, sont souvent considérés comme l'apogée artistique du groupe. C'est également valable pour Lennon qui compose à cette époque plusieurs de ses chansons les plus appréciées telles que Strawberry Fields Forever, Lucy in the Sky with Diamonds et I Am the Walrus aux tonalités psychédéliques. La préparation de l'album blanc marque le début des tensions entre John et Paul McCartney. Lennon compose à cette époque un grand nombre de chansons. L'album est en particulier marqué par Revolution 9, un collage sonore réalisé par John et Yoko Ono et inséré sur l'album en dépit du désaccord manifeste de McCartney et John Martin et George Sur Abbey Road, Lennon compose ce qu'il considère comme l'une de ses chansons préférées, comme Together. 3-3-2, carrière solo. John Lennon réalise son premier album hors du groupe en 1968 avec Two Virgins. Il s'agit d'un album de musique expérimentale réalisé avec Yoko Ono, dont la pochette est ornée d'une photographie du couple dénudé. L'album qui fait scandale ne connaît qu'un succès relatif. Le premier véritable single solo de Lennon est Give Peace a Chance, enregistré à Montréal en 1969. Après la séparation définitive des Beatles, Lennon réalise en 1970 son premier album, John Lennon Plastic Ono Band, qui devient l'un de ses albums les plus populaires. Il se caractérise par ses tonalités mélancoliques, Mother, Isolation, et parfois belliqueuses, Working Class Hero. En 1971 sort Imagine, un des albums phares du chanteur, qu'il décrit comme Working Class Hero avec du sucre. L'album contient la chanson du même nom, qui atteint le sommet des classements de nombreux pays et devient avec le temps l'un des plus grands hymnes pacifistes jamais écrits. Au cours des trois années qui suivent, Lennon enregistre encore quatre albums, relativement mineurs, dont Wall and Bridges, qui se classe numéro 1 aux États-Unis. Il se retire ensuite pendant 5 ans pour s'occuper de son fils Sean et revient en 1980 avec Double Fantasy, en très étroite collaboration avec Yoko Ono. Le chanteur est assassiné peu après. Nombre d'albums paraissent après la mort de Lennon. S'il s'agit surtout de compilations, on trouve également un album studio publié à titre posthume en 1984, Milk and Honey, et une connexion d'inédits publiée en 1986, intitulée Men Love Eve. Le coffret John Lennon Anthology, sorti en 1998, est un panorama de la carrière solo de l'artiste, contenant un certain nombre de ses prises inédites. 3.4. Filmographie. Les apparitions de John Lennon au cinéma sont peu nombreuses et se font le plus souvent avec les Beatles. Une seule fois, pendant les années 1960, il travaille sur un film sans les autres Fab. Cependant, après la séparation des Beatles, il produit plusieurs courts-métrages d'avant-garde avec sa femme Yoko Ono. 3.4.1. Succès des Beatles. La première incursion des Fab Four au cinéma remonte à 1964 avec A Hard Day's Night, réalisé par Richard Lester. Ce faux documentaire en noir et blanc montre supposément comment les Beatles vivent en pleine Beatlemania. Cependant, la représentation de la folie entourant les Beatles est édulcorée car en réalité, la Beatlemania commence à se vivre de plus en plus difficilement pour les 4 Beatles et plus spécialement Lennon. Celui-ci s'enfonce progressivement dans un mal de vivre qu'il transpose dans sa chanson Help. Cette chanson est le point de départ du film du même nom, de nouveau réalisé par Lester en 1965. Cette fois, le film est en couleur et l'histoire est totalement fictive. Les Beatles sont poursuivis par une secte hindoue qui cherche à récupérer une bague sacrificielle que Ringo porte à son doigt. Le groupe critique le film à la suite de sa sortie, se considérant comme relégué à un rôle secondaire dans leur propre film. En août 1966, la Beatlemania a pris une ampleur effrayante et dangereuse, et finit par frustrer les Beatles. Ils décident de mettre un terme aux tournées mondiales et arrêtent de jouer en public. Lennon vit mal cet arrêt qui signifie pour lui la fin des Beatles. Il tente de trouver une autre alternative et accepte un second rôle dans le film How I Won the War, toujours tourné par Lester et sorti en 1967. Pendant le tournage, il compose Strawberry Fields Forever, annonciatrice des productions des Beatles de cette année-là. Après un Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band au succès retentissant, le groupe, sous la direction de Paul McCartney, se lance dans la production d'un film qu'il aura lui-même produit. Le résultat est Magical Mystery Tour, réalisé avec la collaboration de Bernard Knowles, et paru à la fin de 1967. Le film met en scène les Beatles dans un voyage en autobus psychédélique, accompagné d'un rassemblement hétéroclite d'acteurs choisis au hasard. Le succès n'est pas au rendez-vous, les critiques descendent le film et même le public est déçu. Les chansons du film, rassemblées sur le double EP Magical Mystery Tour, sont cependant bien accueillies, toutes dans la même veine psychédélique que Sgt. Pepper. 3.4.2. Projets expérimentaux. À la suite de ce premier échec commercial et critique, et sa rencontre avec Yoko Ono, John Lennon essaie de s'aventurer hors du cadre des Beatles et participe fin 1968 au Rock'n'Roll Circus, une émission musicale et de variété organisée par les Rolling Stones. Mais auparavant, il est impliqué avec les 3 autres Beatles dans le dessin animé Yellow Submarine réalisé par George Dunning. Les Beatles, désintéressés du projet, n'y prêtent même pas leur voix et s'occupent exclusivement de fournir une poignée de chansons rassemblées par la suite sur l'album du même nom. Le dernier film de John avec les Beatles constitue au final le témoignage de la séparation du groupe. Au début de 1969, le groupe doit faire un dernier film pour respecter son contrat avec United Artists, alors qu'il n'a pas la moindre envie de jouer la comédie. On décide donc de filmer les Beatles en répétition pour un concert final sur les toits du bureau d'Apple. Cependant, les tensions pendant le tournage sont apparentes et transparaissent dans le film. Les Beatles attendent un an avant de le laisser sortir, tandis qu'ils sont insatisfaits du résultat. Let It Be, réalisé par Michael Lindsay Hogg, paraît en 1970, peu avant l'album éponyme. Lors de sa sortie, le groupe s'est déjà séparé. Mais quelques temps avant que les Beatles se séparent, en 1968, Yoko Ono l'initie à faire de courts films expérimentaux. Le couple en produit au-dessus d'une trentaine dans les années qui suivent, jusqu'en 1972. La plupart consistent en des extraits de concerts filmés et de vidéoclips, tandis que d'autres ont un concept bien défini, par exemple Self-Portrait, qui montre le pénis de John en phase d'érection, et Erection, qui présente en avance rapide la construction de l'International Hotel de Londres. 4. Postérité. 4.1. Héritage. 4.1.1. Patrimoine. Depuis la mort de Lennon, c'est Yoko Ono qui gère son patrimoine. Elle produit ainsi un grand nombre d'albums posthumes du musicien à partir d'enregistrements inédits. Lorsqu'à la fin des années 1990, Paul McCartney demande à ce que Yesterday soit crédité McCartney-Lennon plutôt que Lennon-McCartney sur la compilation One, Ono refuse. De même, elle s'implique avec les Beatles, encore en vie et l'épouse de George Harrison, dans la production du jeu The Beatles Rock Band et, de façon générale, dans le devenir des intérêts du groupe. Ono gère également l'image de son mari, ce qui provoque en 2010 une polémique lorsque Lennon apparaît dans une publicité pour Citroën. Des objets appartenant au chanteur sont également disputés aux enchères. Ainsi, en 2000, le piano sur lequel il a composé Imagine est acheté par George Michael pour plus de 2 millions de livres sterling. De même, en 2007, un collectionneur britannique achète une paire de lunettes ayant appartenu à Lennon pour une somme tenue secrète. En 2010, enfin, le manuscrit des paroles de la chanson A Day in the Life est vendu pour 1,2 million de dollars. En 2006, le magazine Forbes révèle que Lennon est la quatrième des personnalités décédées les plus riches. 4-1-2, honneur posthume. Nombreux sont les artistes qui considèrent les Beatles comme une source d'inspiration. Nombre des chansons écrites par Lennon pour le groupe ont par ailleurs été reprises par divers groupes et chanteurs. La chanson Scarabée, tirée de l'album MNG de Vanessa Paradis, rend hommage à la vie de l'artiste. La chanson des Cranberries I Just Shot John Lennon en est également un exemple. De même, la chanson Gosse en cavale de Patrick Bruel évoque l'onde de choc qui a suivi l'annonce de la mort de Lennon. Liam Gallagher, le chanteur du groupe Oasis, considère pour sa part Lennon comme un héros et a nommé son fils aîné Lennon Gallagher en hommage au chanteur. Les chansons de John Lennon connaissent également un grand succès après sa mort. En 1999, la BBC publie un sondage révélant qu'Imagine est la chanson préférée des Britanniques. En 2002, un sondage mené par la même BBC le classe parmi les 100 plus grands héros britanniques. Le magazine Rolling Stone le classe pour sa part 5e meilleur chanteur de tous les temps et 38e plus grand artiste de tous les temps, alors que les Beatles arrivent premiers. Deux de ses albums solo, Imagine et John Lennon Plastic Ono Band, figurent parmi les 500 plus grands albums de tous les temps selon ce même magazine, qui classe par ailleurs pas moins de 4 albums des Beatles parmi le top 10. Enfin, Lennon figure depuis 1987 au Songwriter Hall of Fame et depuis 1994 au Rock and Roll Hall of Fame. 4-2, hommages et mémoriaux. 4-2-1, au cinéma. Plusieurs films ont été réalisés sur Lennon après sa mort. Ainsi, un téléfilm, Two of Us, romance une rencontre entre Lennon et McCartney à New York après la séparation des Beatles. Plusieurs films reprennent également l'assassinat de John Lennon. The Killing of John Lennon et Chapitre 27, tous deux sortis en décembre 2007. Dans ce dernier film, Lennon est incarné par Mark Lindsay Chapman, homonyme de son assassin. En 2009, les débuts de Lennon au sein des Quarrymen sont relatés dans le film Nowhere Boy, dont la sortie américaine est prévue pour célébrer le 70e anniversaire du chanteur en octobre 2010. Des documentaires ont également été réalisés sur le chanteur, tels que Imagine John Lennon en 1988, composé d'images d'archives et d'interviews, et Les USA contre John Lennon en 2006, qui raconte les tentatives d'expulsion menées par Richard Nixon dans les années 1970. 4-2-2, mémoriaux. En 1985, le mémorial Strawberry Fields est inauguré au Central Park de New York et est le théâtre de rassemblements réguliers pour commémorer les anniversaires de l'artiste. En 2002, l'aéroport de Liverpool, rénové, a été rebaptisé John Lennon Liverpool Airport. Une statue de bronze le représentant est installée dans le hall d'enregistrement. La devise « Above Us Only Sky », tirée des paroles d'Imagine, est peinte au plafond, tandis qu'à l'extérieur, un Yellow Submarine géant accueille les automobilistes. Depuis le milieu des années 1980, un mur de la ville de Prague continue d'être recouvert de graffitis en son hommage et est devenu le Lennon Wall. En 2007, près de la capitale irlandaise Reykjavik, a été inaugurée l'Imagine Peace Tower, une tour qui projette un rayon lumineux en direction du ciel, chaque année entre le 9 octobre et le 8 décembre. Des expositions lui ont aussi été consacrées dans John Lennon Unfinished Music, du 20 octobre au 25 juin 2006 à la Cité de la Musique, et Imagine, la balade pour la paix de John et Yoko, une exposition temporaire au Musée des Beaux-Arts de Montréal, du 2 avril au 21 juin 2009.